France Musique. Musicopolis. Janvier 1735, Londres. La saison 34-35 s'est ouverte pour Handel dans un nouveau cadre. Le contrat qu'il avait précédemment avec le Haymarket s'est terminé à la fin de la saison dernière et le propriétaire s'est empressé de proposer son théâtre à la nouvelle troupe arrivée à Londres, troupe dite « Opéra de la noblesse ». Cette association rivale est commanditée, comme son nom l'indique, par un groupe de nobles qui mettent tous leurs moyens dans l'engagement de stars de l'opéra italien. Alors que Handel a fait leur beau jour depuis plus de 20 ans, ils se tournent à présent vers de nouvelles stars, dont le fameux Farinelli. Handel a dû embaucher une nouvelle troupe, déménager dans un nouveau théâtre à Covent Garden. C'est la guerre. La saison d'opéra a commencé à l'automne. Le 9 novembre, Handel a ouvert le feu avec une reprise d'un ouvrage qu'il avait donné à Londres en 1712, Il Pastor Fido. La scène du Covent Garden étant grande et pratique, il en profite pour ajouter des chœurs. Et surtout, surtout, grande nouveauté, il fait précéder l'opéra d'un divertissement dansé. Puisqu'en effet, une danseuse française, la merveilleuse Marie Salé, a été engagée pour la saison. Après Il Pastor Fido, Handel a enchaîné d'autres reprises. Arianna, un opéra de la saison précédente qui avait bien marché, auquel, à nouveau, il a ajouté des danses pour la petite troupe de Marie Salé. Puis il fait encore représenter un pasticcio, Oreste. Un pasticcio, c'est-à-dire un nouveau livret sur lequel il a adapté ouverture, air, duo et chœur final tirés de précédents ouvrages. Il a changé les paroles, écrit de nouveaux récitatifs et, bien sûr, laisser de la place pour un divertissement dansé. Handel a attendu 2 mois après le début de la saison, le temps que l'engouement pour la troupe rivale et notamment la folie Farinelli retombe un peu, pour représenter son nouvel opéra. Il a choisi pour sujet Ariodante, d'après un épisode de l'Orlando Furioso de l'Arioste. Ariodante, un jeune prince, et Ginevra, une jeune princesse, s'aiment et le père de la jeune fille, roi d'Écosse, veut bien qu'ils se marient. Un bon début. Handel a confié le rôle de Ginevra à la soprano Anna Maria Strada del Po, la seule chanteuse de sa troupe qui n'est pas passée à la concurrence. C'est elle qui chante le premier air. « Que la grâce, le charme et l'allégresse rendent mon visage encore plus désirable aux yeux de mon bien-aimé. »
Oh.
Elle est charmante, cette Ginevra, n'est-ce pas? Justement, c'est exactement ce que pense Polinesso, duc d'Albanie, qui vient lui déclarer son amour. Mais Polinesso ne plaît pas du tout à Ginevra, dont le cœur est pris par Ariodante. Elle lui déclare sans embâge qu'il peut aller voir ailleurs. Dalinda, la suivante de Ginevra, essaye de le consoler en lui avouant que son cœur, à elle, est tout ce qu'il y a de libre pour lui. Resté seul, Polinesso va révéler la noirceur de son âme. Il décide d'employer la ruse pour empêcher son rival d'accéder au trône. Non, il n'est pas sympathique, ce Polinesso. D'ailleurs, c'est normal, c'est le méchant de l'histoire. Quel contraste avec Ariodante, le jeune premier, qui chante son bonheur sur un ton pastoral si délicat. C'est d'amour qu'ici, dans leur langage, ruisseaux, herbages et ramages parlent à mon cœur épris. Depuis la saison précédente, Handel a engagé un nouveau castrat, Giovanni Carestini, décrit comme « grand, beau et majestueux ». C'est un excellent chanteur et de plus un très bon acteur. Il a 30 ans, il a commencé sa carrière il y a déjà plus d'une douzaine d'années. Il s'est fait applaudir à Rome, Vienne, Venise, Naples et Munich avant de suivre Handel à Londres. Il est à l'aise dans la haute virtuosité et il se montre aussi un fin musicien. C'est à lui que le compositeur confie le rôle d'Ariodante, le primo uomo, le premier rôle masculin. Sa voix s'accorde sans doute joliment avec celle de Ginevra, raison pour laquelle Handel leur confie un petit duo.
Turbate, bella alma innamorate, tacete, ed i vostri contenti me a parte ancor prendete, che della vita e degli spirti miei una parte sei tu, l'altra tu sei.
Ariodante et Ginevra ont été interrompus dans leur duo d'amour par le papa de la jeune fille qui vient les féliciter et s'associer à leur bonheur. Il exhorte sa fille, à l'occasion de ses noces, à rendre son cœur encore plus gai, son visage encore plus charmeur et ses cheveux plus radieux. Si grande est la joie de Ginevra qu'elle ne peut assez l'exprimer. « Volez, Dieu de l'amour, célébrez l'immense félicité de deux cœurs épris !»
Oh!
si l'air de Ginevra est plein de légèreté et d'une certaine virtuosité, ça n'est rien pourtant à côté de ce qui attend à présent Ariodante et qui donne une idée des possibilités pyrotechniques de Giovanni Carestini avec des mesures et des mesures de vocalise. Porté par les ailes de la fidélité, l'amour prend son envol, faisant triompher dans mon cœur la foi et l'espérance. Les jeunes amoureux ne savent évidemment rien de ce qui se passe dans leur dos. Polinesso ourdit un plan, aidé de la malheureuse Dalinda qui croit qu'il lui rend son amour. Tandis que le pauvre Lurcagno, frère d'Ariodante, se lamente qu'elle le repousse. Ariodante et Ginevra, eux, au milieu d'un charmant paysage, une riante vallée nous dit le livret, entourée de bergers et de bergères, se réjouissent et participent peut-être au divertissement dansé. À commencer par une gavotte. On dirait bien que pour ce nouvel ouvrage, destiné à lutter contre la troupe rivale de l'opéra de la noblesse, Händel s'est trouvé une inspiration toute fraîche. Les nouveaux interprètes, les danses, le chœur sur la scène, tout participe à renouveler la forme de son opéra. Voilà qui pourra clouer le bec à ceux qui prétendaient l'année précédente que le compositeur était fini, ruiné et d'une santé chancelante, santé mentale notamment. Ceci dit, il est vrai que parfois, il fatigue. À 49 ans, en tant que directeur d'opéra, il remplit les rôles d'impresario, de chef d'orchestre, de compositeur, de gestionnaire, dans une ville où le public est exigeant et volage. C'est pour cette raison qu'à l'été 1734, il est allé prendre les eaux à Tunbridge Wells, une station thermale à 60 km au sud de Londres. C'est là qu'il s'est mis au travail sur Ariodante. Il termine le premier acte le 28 août, un premier acte solaire, joyeux et pastoral. Le deuxième acte, au contraire, va être lunaire. le plan de Polynesso pour perdre son rival Ariodante est simple. Il demande à Dalinda de se déguiser en Ginevra et il montre à Ariodante que Ginevra lui ouvre sa porte et le reçoit nuitamment. La jalousie est un vilain défaut, mais c'est un puissant ressort dramatique. Ariodante se laisse abuser par ce qu'il voit et il est décidé à en mourir. Ce qui nous donne l'un des plus beaux airs de Handel, Scherza in Fida, qui nous laisse voir aussi un autre aperçu des talents de Carestini. Amuse-toi, infidèle, dans les bras de ton amant. Moi, trahi, par ta faute, je m'en vais me jeter dans les bras de la mort. Rien ne va plus au royaume d'Écosse. On annonce au roi que son cher Ariodante s'est jeté dans la mer. Le roi tient sa fille Ginevra pour responsable et il la renie. La pauvre, abandonnée de tous, elle est la proie de cauchemars où se combattent songes agréables et songes funestes. Encore une belle occasion pour la troupe de Marie Salée. Troisième acte va voir l'intrigue se régler de manière heureuse. D'abord, Ariodante n'est pas mort. Il rencontre Dalinda, poursuivie par les sbires de Polynesso qui veulent la faire taire. Mais justement, elle parle. Ariodante comprend qu'il a été abusé par Polynesso. Et Dalinda, qui a été trompée elle aussi, appelle maintenant les foudres du ciel sur la tête du traître. En l'absence d'une autre grande chanteuse italienne dans sa troupe à côté de la Strada, Handel a engagé pour incarner Dalinda, une jeune Anglaise de 22 ans, élève de Gemignani, Cecilia Young, et pour tenir le rôle de ténor de Lurcagno, un encore plus jeune homme, John Bird, âgé de 18 ans. À la fin du troisième acte, lorsque Lurcagno aura tué Polynesso et que Dalinda aura été pardonnée, ils chanteront ensemble un ravissant duo d'amour.
dolci labbra del mio ben, dolci labbra del mio ben, dolci labbra del mio ben.
Spera, spera che un giorno tento il mio guardar m'accende il sen, ma guarda.
Spera, e son contento, dolci labbra.
Spera, spera, io già mi pento.
Dolci labbra.
Già mi pento.
Dite, spera.
Spera, spera.
E son contento.
Io già mi pento.
Dolci
labbra,
dolci labbra del mio
ben,
dolci labbra, dolci labbra del
ben. Reste à révéler à la pauvre Ginevra, prête à mourir, qu'elle a été la victime d'une odieuse machination et du jugement sans appel de son amant et de son père. L'acte se terminera par un ballet et un chœur de réjouissance. Handel, lui, n'aura qu'un succès d'estime, et l'opéra ne restera à l'affiche que le temps de 11 représentations. Alcina fera à peine mieux 3 mois plus tard. Après une brève reprise en 1736, Ariodante s'endormira pour 200 ans, avant d'être aujourd'hui l'un des opéras les plus appréciés de Handel. Quant à nous, terminons avec le duo d'amour et de réconciliation entre Ariodante et Ginevra. De l'acte 3 de Ariodante de Handel avec Lynn Dawson en Ginevra, Anne-Sophie von Otter en Ariodante, les musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski. Tout le programme, la réécouter, le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Charlotte Landruchandès et Max Dosolm pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Bernard Laniel pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.